Good Morning Business, Morning Retail.
Et on retrouve donc à 6h36 Eva Jacquot. On va parler, puisque nous sommes en journée spéciale Super Tuesday américain, de Macy's, la chaîne de grands magasins. Vous nous aviez expliqué qu'elle allait être achetée, qu'il y avait une offre qui avait été faite. L'offre a été relevée de 1 milliard de dollars. Comment espère-t-il le repreneur faire revivre ces magasins historiques, mais dont le business model est un peu plus compliqué?
Mais 6,6 milliards de dollars, c'est la nouvelle offre de ces investisseurs qui sont sur le coup depuis décembre dernier. Alors jusqu'ici, Macy's est plutôt fermé aux discussions. Le groupe annonçait la semaine dernière la fermeture de 150 magasins d'ici à deux ans, plus une réduction de 3,5% de ses effectifs. Alors pour rappel, Macy's, c'est 722 magasins qui sont clairement dans une mauvaise passe. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça. Ça s'est précipité depuis le Covid. Alors lors de son exercice l'année dernière, Macy's a engrangé 23,1 milliards de dollars de recettes, un chiffre en baisse de 5,5% sur un an. Son bénéfice net, en revanche, se maintient à flot, cependant avec 105 millions de dollars. Macy's a tout de même quitté le classement de l'indice boursier des 500 grandes sociétés cotées en bourse des États-Unis, le SP500. Ils ont vraiment de très grosses difficultés à se relancer.
Problèmes financiers, problèmes commerciaux, qu'est-ce qui s'est passé chez Macy's?
Oui, eh bien, il y a clairement un problème d'attractivité. Ces magasins ont un parc trop important avec des magasins de trop grande taille qui peinent à attirer les clients. Ce sont des magasins très vieillissants. C'est ce que nous confiait un expert du retail américain qui me disait que dans certains malls, ces grands centres commerciaux, certains magasins n'avaient pas été rénovés depuis plus de 15 ans. Et puis, il y a les différents CEO qui se sont succédés avec des stratégies différentes et peu concluantes. On peut citer par exemple un CEO qui avait, j'ai plus son nom en tête, mais qui avait privilégié le e-commerce au détriment des magasins, à un autre qui prenait plutôt la personnalisation dans le concept. Ça s'appelait On Your Style et c'était trop compliqué à répliquer dans les centaines de magasins. Et puis bien sûr, ils sont concurrencés par les enseignes généralistes comme Walmart, Target ou encore Primark, tout à fait.
Shine.
Et puis voilà, Shine, Temu sur le prix et puis directement par les marques, parce que finalement si on veut s'acheter un t-shirt Nike ou une tenue de sport Nike, on va aller directement chez Nike et pas forcément chez Macy's.
Alors est-ce qu'il y a quand même des exemples où des acteurs historiques comme Macy's arrivent à transformer leur modèle et à réussir?
Oui, alors celui qui tire son épingle du jeu, c'est la marque originaire de Seattle, Nordstrom, qui, elle, réalise 30% de ses ventes en ligne, donc a réussi son passage sur le digital et s'en sort aussi bien sur les services qu'elle propose. Elle est très forte en relation client. On peut citer aussi Saks qui, lui, se redresse. C'est ce que confiait son CEO lors de la NRF à New York en janvier dernier. Dernier exemple en date, en décembre, ils avaient doté leur façade d'un décor, d'une grande roue avec Dior. Ça nous fait penser vraiment aux magasins, nous, qu'on connaît en France, Galerie Lafayette ou encore Printemps. Concrètement, aujourd'hui, le segment du prêt-à-porter est divisé en deux segments. Il y a les enseignes à bas prix et les enseignes qui proposent vraiment quelque chose de différent, plus les enseignes luxe finalement. Ouais, donc c'est très compliqué.
Mais entre les deux.
Voilà, c'est très compliqué pour cette.
Il y en a plein d'exemples aussi en France de marques comme ça qui sont entre les deux, une big queen et qui ne fonctionnent pas.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Eva.